Donne la voix de l'Amérique tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tour d'Horizon de l'actualité en ce samedi 22 novembre 2014. Les chances de parvenir à un accord complet sur le programme nucléaire de Téhéran d'ici lundi apparaissaient ce samedi de plus en plus réduites. L'Iran et les grandes puissances réunies à Vienne, reconnaissant être encore loin de l'objectif final à 2 jours de la date butoir dans ce dossier qui empoisonne la communauté internationale depuis plus d'une décennie, américains, européens et iraniens s'accordaient tous à reconnaître que des divergences importantes subsistaient pour parvenir dans 2 jours à un règlement complet et définitif. C'est l'heure de vérité, a lancé le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, en arrivant à Vienne, où il s'est entretenu séparément avec ses homologues américains John Kerry et iranien Mohammad Javad Zarif. Monsieur Kerry a reconnu qu'il reste de graves divergences avec l'Iran, tout en assurant que tout le monde travaillait dur pour réaliser une percée. En déplacement en Turquie, le vice-président américain a appelé l'Union européenne à renforcer son indépendance énergétique par rapport à la Russie. Pour Joe Biden, l'Europe doit assurer la diversification de ses sources d'énergie, notamment vis-à-vis du gaz et du pétrole russe. C'était lors d'un discours prononcé ce samedi lors du sommet du Conseil de l'Atlantique sur l'énergie et l'économie à Istanbul. Le vice-président Biden a attiré l'attention sur la crise ukrainienne qui, selon lui, a une nouvelle fois prouvé qu'il était temps d'agir pour ne pas permettre que les livraisons d'énergie soient utilisées comme une arme politique. Monsieur Biden a aussi précisé que Moscou devrait rester un important fournisseur d'énergie sur le continent européen. L'actualité en Afrique, le Mali a enregistré un nouveau cas d'Ebola. Dans un communiqué émis samedi, le ministère malien de la Santé a indiqué que cette personne a été admise dans une unité de soins intensifs à Bamako. Parmi 2 cas suspects qui étaient en cours de test, l'un a été déclaré négatif, l'autre positif. Ce dernier a été placé en centre d'isolement pour un traitement intensif, selon le communiqué. 310 personnes susceptibles d'être contaminées par Ebola sont sous surveillance médicale. D'après le même communiqué, le Mali, dernier pays à avoir été contaminé par Ebola, a enregistré 7 décès dus au virus de la fièvre hémorragique. Le Burkina Faso attendait ce samedi de connaître son gouvernement pour une transition d'un an et un test majeur sur le rapport de force entre le président intérimaire Michel Kafando et son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Un officier proche du lieutenant-colonel Zida confiait à l'AFP que c'était l'heure des ultimes petits réglages. Le lieutenant-colonel Zida était devenu l'homme fort du pays depuis la chute du président Blaise Compaoré le 31 octobre, chassé par la rue après 27 ans de règne. La Fédération internationale des droits de l'homme a demandé ce samedi la libération immédiate de 2 militants rwandais des droits de l'homme arrêtés hier au Rwanda. La FIDH a dénoncé ce qu'elle appelle une mainmise des autorités rwandaises sur l'ONG. D'après l'AFP, Daniel Uwimana et Évariste Sabeyuzu, 2 membres de la Ligue rwandaise de promotion et de défense des droits de l'homme, la LIPRODOR, affiliée à la FIDH, sont accusés d'usage de faux documents. Selon Elie Sinba Kiwa, l'actuel secrétaire exécutif de la LIPRODOR, la lettre réclamant l'inconvocation d'une assemblée générale comportait des signatures falsifiées. La FIDH estime l'actuelle direction de la LIPRODOR illégitime et croit que ces arrestations ont pour but d'entraver l'organisation de l'Assemblée générale et de garder la mainmise sur une des dernières ONG indépendantes de défense des droits humains du Rwanda. Les islamistes somaliens ont exécuté ce samedi 28 passagers d'un autobus dans la région de Mandera, dans le nord-est du Kenya. Les assaillants ont tendu une embuscade aux véhicules à la sortie de Mandera, ville frontalière avec la Somalie. Ils ont ensuite contraint les 60 voyageurs à descendre de l'autocar afin de séparer les musulmans des non-musulmans avant d'abattre ces derniers.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Le magazine féminin de la voix de l'Amérique. Vous écoutez le magazine au féminin présenté par Nathalie Barge avec un invité en ligne, Jorge Cardona, membre du comité des Nations Unies des droits de l'enfance, pour faire le point sur la situation des enfants dans le monde et surtout en Afrique, à l'occasion du 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Monsieur Cardona, bonjour et merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Monsieur Cardona, est-ce qu'on a fait des progrès ou est-ce que l'on peut observer plutôt une tendance au recul, en tout cas sur certains points dans le monde, d'une manière globale, sur la situation des enfants et surtout de leurs droits?
On a fait des grands progrès les dernières 25 années, surtout en matière de protection. On doit penser que les enfants qui décèdent pour des causes évitables sont la moitié qu'il y a 20 ans. Et si on parle de l'éducation, on a passé de l'année 1990 de 50% des enfants au monde qui allaient à l'école primaire, et on a passé à 84%. Mais il nous reste de grands défis pour les prochaines années.
Alors à propos de défis, si l'on parlait particulièrement de la situation des filles.
Il y a beaucoup de choses qui, bien sûr, sont de graves problèmes maintenant, comme les mariages forcés, la mutilation génitale des filles, la ségrégation dans l'éducation. On a amélioré, oui. Et on peut dire que dans tous les pays, au moins, le problème est dans l'agenda de pays. Et ça signifie qu'on parle du sujet, on légifère sur la matière. Mais bien sûr, pour changer la situation, on doit travailler sur la mentalité sociale, sur la mentalité de la société. Et ça signifie qu'on doit faire un grand effort pour éliminer cette pratique qui finalement fait que les filles soient discriminées ou que ces droits ne sont pas respectés comme ils devraient être respectés.
Alors, à propos donc d'interactions avec les gouvernements, qui sont tous très différents d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre, pourriez-vous nous dire quel est le rôle du Comité des droits de l'enfant et surtout, quel est son pouvoir?
Le rôle du comité, c'est faire un contrôle sur tous les États partis, les 194 États partis de la Convention. Vous savez que la Convention, c'est le traité plus ratifié du monde. Alors, nous devons contrôler l'application chaque 5 années de la Convention. Nous faisons des recommandations au pays pour les prochaines 5 années. C'est en fonction des promotions. C'est en fonction d'aider les États, adapter les recommandations à la situation des pays pour l'aider dans l'application, l'implémentation de la Convention dans ces pays.
Quel type de progrès ont été réalisés en Afrique au cours des 10 dernières années, et y compris dans tous ces pays qui connaissent des situations vraiment très instables?
Si on voit la réalité des dernières années, on voit des progrès, bien sûr. Par exemple, on va prendre la question des enfants soldats dans les conflits armés. Mm-hmm. Tout le monde connaît qu'aujourd'hui, qui recrute des enfants soldats peut finir devant les tribunaux. Et on a vu comment on réduit clairement le recrutement des enfants dans beaucoup d'États, pas seulement par les forces armées, aussi par les groupes armés contre l'État, parce qu'ils connaissent qu'ils peuvent finir devant un tribunal pour être jugé. C'est vrai qu'il existe la violence contre les enfants dans la famille, dans l'école, en Afrique, et qu'il y a une culture de violence dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai aussi qu'on a travaillé beaucoup avec les leaders sociaux, avec les leaders religieux, pour parler, pour essayer de changer la mentalité. Et je crois que si on voit la situation il y a 20 ans et on voit la situation maintenant, on voit des changements. C'est vrai que les défis pour le futur sont énormes et qu'il nous reste beaucoup à faire.
Monsieur Cardona, au niveau plus global, si l'on parle de vos protocoles optionnels, notamment sur la vente, la prostitution, la pornographie des enfants, au niveau mondial, quels progrès ont été réalisés et est-ce que l'on parvient à éviter le pire, à sauver des enfants qui sont dans ce type de situation?
On a fait beaucoup de progrès, c'est-à-dire qu'on a évité, par exemple, en matière d'adoption, avec tous les règlements qui ont été adoptés, qu'il y ait vente des enfants au niveau international. Mais c'est vrai que maintenant, il nous reste un grand défi sur le sujet de la vente des enfants pour le travail, la vente des enfants pour l'adoption, la vente des enfants, des organes des enfants. C'est très problématique. Surtout, c'est la mondialisation à travers la technologie de l'information et la communication. C'est un grand défi pour le protocole sur la vente, prostitution et pornographie. Mais on a fait beaucoup de choses. On a légiféré beaucoup. On a adopté des mesures de protection. Mais c'est vrai aussi qu'il commence à avoir de nouveaux défis, comme par exemple le ventre alloué de mère ou d'autres choses qui sont de nouveaux défis qui on doit voir comment est-ce qu'on doit régler cette situation.
L'on sait que bientôt, il faudra mettre en place les objectifs du développement durable et que le thème est concentré sur les droits humains. Au passage, on peut tout de même noter que les objectifs du millénaire là, de 2015, ça c'est quand même un échec, non ?
Les objectifs du millénaire avaient un grand défaut, que ce sont des objectifs quantitatifs et pas qualitatifs. Mmh. Ce sont des objectifs d'arriver à des pourcentages. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose que les enfants arrivent à l'éducation qu'avoir une éducation de qualité, sans discrimination. Le nouveau système, c'est précisément changer la situation pour parler pas seulement de où est-ce qu'on doit arriver, aussi comment est-ce qu'on doit arriver.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme souhaite que l'enfant participe lui-même à tous les problèmes qui le concernent. Mais de quelle manière vous pensez que cela est vraiment possible au plan international et au plan national et au plan local même hein ?
Oui, bien sûr. La participation, c'est le grand défi. Au niveau des Nations Unies, on a commencé à faire des choses, par exemple au Comité des droits des enfants. Nous sommes en train d'améliorer toutes les méthodes de travail pour permettre la participation des enfants dans les contrôles des États et les activités de l'État en matière d'application. Mais bien sûr, la participation principale est à l'intérieur des États et surtout, on doit commencer au niveau local, et suivre au niveau régional et finir au niveau étatique. Et c'est-à-dire que les enfants doivent être citoyens de tous les pays. On doit reconnaître la situation des citoyens et leur droit à participer dans toutes les questions qui les affectent. Et ça signifie qu'ils doivent écouter aux enfants comme on écoute les adultes dans toutes les questions. Et ça, c'est le changement qui est nécessaire. Ça signifie vraiment considérer les enfants comme citoyens. Ça, c'est le grand défi, la reconnaissance des enfants comme sujet de droit.
Dernière question, Monsieur Cardona. Je sais que vous n'êtes pas là pour soit pour légiférer, soit pour intervenir, soit pour juger. Cependant, est-ce qu'il est prévu des mesures au plan international pour que la communauté internationale ait beaucoup plus de pouvoir quand un pays, par exemple, persiste finalement à ne pas protéger ses enfants, voire à être plus ou moins, on va dire, complice de ce qui leur arrive à partir du moment où il n'agira pas pour les protéger.
Mais on doit comprendre que ça c'est beaucoup plus nécessaire au niveau régional, international, qu'au niveau mondial. Je m'explique. Il n'est pas facile d'avoir un tribunal mondial pour les violations des droits de l'homme, droits des enfants, droits des femmes, etc. Parce que c'est très difficile d'avoir un tribunal qui, pour 3 000 millions d'enfants au monde. Alors, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des tribunaux, des cours régionales en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour juger les États. Mais c'est vrai qu'il est nécessaire l'existence de mécanismes pour.
Par exemple, excusez-moi, monsieur Cardona, la Cour européenne des droits de l'homme serait un bon exemple, par exemple, c'est ça ?
Oui. Mm-hmm. Une chose comme la Cour européenne, comme la Cour africaine, comme la Cour interaméricaine, sont des bons exemples pour juger et pour que les États soient juridiquement sanctionnés au cas de violation des droits de l'homme.
Est-ce que la Cour africaine est efficace selon vous? Autrement dit, est-ce que ces tribunaux régionaux ont les moyens de fonctionner de manière totalement indépendante?
Bon, à mon avis, la Cour africaine n'a pas les ressources, n'a pas les moyens suffisants. Avec les moyens et les ressources qu'elle a, elle fait un bon travail. Mais malheureusement, avec les recours et les moyens qu'elle a, c'est impossible de faire un bon travail.
Donc elle mériterait d'être renforcée, en fait. Ça pourrait être partie des projets pour améliorer la situation, non seulement des enfants, mais des droits humains en Afrique.
Effectivement.
Monsieur Cardona, est-ce que vous auriez quelque chose d'important à ajouter avant qu'on se quitte?
En tout cas, dire qu'on doit se féliciter pour le 25 anniversaire de la Convention et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais on ne doit jamais oublier qu'on a fait beaucoup de choses et on doit remercier tout le monde qui a travaillé, tout le monde qui travaille tous les jours, les ONG.
Au niveau local, oui, il ne faut pas oublier de le dire, hein, tous ces gens qui, dans leur pays, hein, avec peu de moyens, très courageux d'ailleurs, hein, luttent pour améliorer la situation de leur environnement, leur propre situation, hein, c'est ça?
Effectivement.
Jorge Cardona, je rappelle que vous êtes membre du comité des Nations Unies des droits de l'enfant. Un grand merci en vous souhaitant bon courage, bonne chance et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Vous écoutez le magazine Au Féminin avec Nathalie Barge et avec un invité en ligne, Martin Chungong, secrétaire général de l'Union interparlementaire. Alors, c'est pour discuter notamment des nouveaux objectifs du millénaire, en quelque sorte, en tout cas ceux qui prennent la relève, les objectifs du développement durable à partir donc de 2016. Et justement, récemment, une rencontre s'est tenue à New York, hein, pour en discuter et pour mettre ce programme en place. Alors, bonjour monsieur et merci beaucoup pour cet entretien téléphonique.
Merci pour l'invitation.
Alors, monsieur Chungong, hein, cette année, lors de cette rencontre parlementaire à New York, il a été décidé finalement que les nouveaux objectifs, hein, que l'on appelle les objectifs du développement durable, devraient être centrés finalement sur les droits de l'homme. Hein. Quelles sont justement les conclusions de cette rencontre?
Effectivement, la principale conclusion, c'est que finalement, tout développement durable doit être centré sur l'humain. Donc, il ne s'agit pas de satisfaire les besoins alimentaires des hommes, mais également d'assurer le respect de leurs droits dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels, politiques, et ainsi de suite. Ça, c'est la principale conclusion. Et la deuxième chose, c'est que les participants ont convenu que la gouvernance démocratique devrait être au centre du nouveau cadre de développement, parce que cela permet donc la réalisation des autres objectifs du développement.
Je viens tout juste de parler avec Jorge Cardona, hein, qui est un membre du comité des droits des enfants de l'ONU. Et bien sûr, donc j'en profiterai pour vous poser cette question justement en matière de droits de l'enfance, de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des mesures particulières dans ces nouveaux objectifs?
Les objectifs eux-mêmes n'ont pas été conçus. Disons, il y aura des négociations gouvernementales à partir de l'année prochaine, mais il est convenu de dire que donc les droits de la jeunesse doivent figurer dans ce cadre, parce que nous avons constaté, pour ce qui est de la démocratie, que la jeunesse nourrit une certaine apathie à l'encontre de tout ce qui est politique, parce que on constate que les aspirations des jeunes ne sont pas prises en compte par les systèmes en place. Donc, nous essayons, au niveau de l'Union interparlementaire, de voir dans quelle mesure nous pouvons ramener le jeune dans le giron de la politique et voir dans quelle mesure eux, ils peuvent participer, contribuer à la résolution des grands problèmes de l'heure. Donc, je pense que les jeunes occuperont une place très importante dans le nouveau cadre de développement.
Alors, on a remarqué très souvent, finalement, dans les questions de développement, finalement, que ce qui est le plus difficile, c'est l'applicabilité des droits et aussi leur application, en fait. Donc, au niveau parlementaire, est-ce qu'il est prévu, justement, des mesures particulières pour permettre un contrôle, en tout cas un contrôle plus étroit des parlements sur leur propre gouvernement ?
Effectivement, c'est ce que l'Union interparlementaire s'emploie à faire. Nous sommes là pour dire à nos membres, les parlements, que une fois les engagements pris au niveau international, il faut s'assurer que sur le plan national, ces engagements soient traduits dans le cadre législatif et que eux, ils assurent le contrôle de l'application de ces engagements. Et nous le faisons d'abord par un plaidoyer, une action de plaidoyer, mais nous allons de plus en plus entreprendre des actions tendant à renforcer les capacités des parlements. Parce que ce que nous constatons, c'est que dans plusieurs parlements, surtout dans les parlements en transition, dans les parlements à tradition démocratique peu développée, il y a quand même des contraintes en matière de moyens, en matière d'information. Donc, nous essayons de combler ce déficit en apportant un appui aux parlements en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour que ces parlements puissent être à même d'assurer le contrôle de l'application des droits.
J'ai une question sous les yeux inscrite sur le communiqué de votre rencontre qui est: quels sont les modèles participatifs qui se distinguent par leur efficacité? Je trouve cette question intéressante. En avez-vous parlé et auriez-vous des exemples éventuellement?
Oui, nous disons que il est important que les femmes soient de plus en plus impliqués, associés au processus de prise de décision. Et nous avons de très bons exemples à travers le monde. Ce n'est pas l'apanage des seuls parlements, disons, démocratiques en tant que tels. Nous avons le Rwanda, par exemple, qui montre l'exemple de la représentation des femmes dans les sphères politiques. Et nous prenons donc cette implication de plus en plus importante des femmes, mais nous voulons que les autres couches de la société soient impliquées aussi. C'est pour cela que nous plaidons pour la représentation des minorités, des peuples autochtones et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la participation des jeunes.
Alors justement, les jeunes, hein, la participation des jeunes, la participation des enfants, finalement, c'était un petit peu le même sujet avec M. Cardina au niveau des Nations Unies, qui réclame finalement également, du côté des enfants même, hein, de la petite moyenne enfance, plus de participation à toutes ces décisions, à tous ces problèmes qui les concernent. Alors de ce côté-là, vous vous rejoignez. Et au niveau parlementaire, je sais que la jeunesse a déjà la possibilité à travers des parlements pour enfants de s'exprimer et d'agir même.
Oui, c'est ce que nous venons de créer un forum des jeunes parlementaires au sein de l'Union interparlementaire pour permettre aux jeunes leaders politiques de participer aux travaux de l'Union à la conception des politiques et des plans d'action tendant à favoriser la participation des jeunes, tendant à mettre en place des conditions favorables à l'épanouissement des jeunes, par exemple la création d'emplois, l'émancipation économique des jeunes, ainsi de suite. Donc, nous pensons que c'est un forum qui est très important, qui va, disons, porter ses fruits dans les années à venir.
Vous suivez de très près à l'Union interparlementaire forcément des questions de respect des droits de la femme, de la petite fille. Hein, on parle de plus en plus de ces terribles mariages forcés, précoces, etc. qui se pratiquent encore dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions, qui sont encore très nombreux. On parle encore beaucoup d'excision. On a passé à présent le cap de dire, comme on l'a dit peut-être pendant des décennies, ça fait partie de la culture, etc. Maintenant, on passe au cap des sanctions. On arrive à la fin de l'année, on commence une nouvelle année très bientôt, l'année 2015. Est-ce qu'on peut espérer un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus d'action de ce côté-là pour la protection des femmes et des filles?
Oui, effectivement. Je pense que je viens de signer un communiqué de presse portant sur les violences faites aux femmes, aux jeunes filles. Et donc, j'ai vu les statistiques qui sont très, je dirais, préoccupante. Nous, au niveau parlementaire, nous allons poursuivre le travail que nous avons déjà entamé pour sensibiliser les parlements à cette question. Et nous faisons quelques avancées en Afrique. Récemment, nous avons eu à primer une politique innovatrice au Burkina Faso en matière de mutilation génitale féminine. Nous n'avons pas cessé de dénoncer les mariages précoces à travers le monde. Mais une fois de plus, ce que nous faisons, c'est renforcer les capacités des parlements, sensibiliser les parlementaires sur ces grands dossiers et les aider à mettre en place des cadres législatifs qui sont propices à l'élimination de ces pires formes de violation des droits de la femme et des petites filles. Donc, c'est une action multiforme qu'il faut mettre en place pour lutter contre ces fléaux dans les années à venir. Et je pense que l'horizon est très positif et nous ne pouvons que poursuivre en renforçant notre action en la matière.
Et en matière de discrimination économique, hein, l'on sait que beaucoup de gens vivent dans la pauvreté encore aujourd'hui et que c'est une violence à leur encontre, n'est-ce pas, que d'être traité de la sorte, hein, de ne pas avoir les moyens de vivre au quotidien. Est-ce qu'il est prévu aussi des mesures légales particulières qui pourraient donner un petit coup de pouce aux parlementaires, encore une fois, pour pousser leur gouvernement à adopter des mesures sociales, des mesures économiques?
Oui, dès lors que nous disons que le nouvel agenda pour le développement durable devrait être centré sur l'humain, bien évidemment, il faut faire en sorte qu'on puisse lutter de façon plus efficace contre les inégalités qui existent actuellement. Le secrétaire général de l'ONU a dit l'autre jour que aucune couche de la population ne devrait être laissée pour compte. Donc, nous sommes d'accord avec lui sur ce plan. Et en fait, le Parlement est là pour défendre les préoccupations, les intérêts de l'ensemble de la société et non pas d'une certaine couche privilégiée. Donc, nous allons continuer de sensibiliser les parlementaires. Après l'adoption du nouveau cadre de développement durable, nous allons mettre en place avec les parlements un plan d'action qui permet au Parlement d'incorporer ces engagements pris au niveau international dans leur corpus législatif local et assurer le contrôle de l'application de ces engagements.
Au niveau des objectifs du millénaire, qu'est-ce qui n'allait pas très bien? C'était parce qu'on comptait trop sur des chiffres et qu'on n'était pas assez axé finalement sur le résultat concret, tout simplement?
Quand les objectifs du millénaire du développement ont été conçus, il y avait très peu de participation des différentes parties prenantes, encore moins des parlements. Donc les parlementaires se sont retrouvés du jour au lendemain avec une série d'objectifs qu'on leur demandait d'adopter et de mettre en application. Et nous pouvons voir au niveau de, par exemple, de la santé maternelle et infantile, ce sont les objectifs qui traînent le pas depuis plusieurs années et il est convenu de dire que même au-delà de 2015, on continuera de se préoccuper de ce problème, la santé maternelle infantile. Donc, il faut effectivement, et je pense que ce qui est très important pour le nouveau cadre qui sera adopté, on pense déjà aux moyens de mise en œuvre de cela, des moyens de mise en œuvre au niveau des politiques, au niveau de ressources financières qu'il faut mettre en place, ce qui n'était pas le cas des objectifs millénaires du développement.
Si l'on peut conclure après cette discussion, M. Chungong, on espère finalement que ces nouveaux objectifs du développement durable seront donc plus efficaces et permettront finalement d'avancer plus vite.
Nous l'espérons parce que donc, le processus mis en place pour concevoir ces objectifs sont très favorables. Donc, cela associe les différents acteurs, la société. Et puis, surtout, comme je viens de le dire, on pense déjà aux moyens de mise en œuvre, ce qui est très important. Et donc, il y aura un cadre d'évaluation qui sera mis en place, je l'espère, et qui permettra donc de mesurer les progrès et de rectifier le tir s'il le faut.
Martin Chungong, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union interparlementaire. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci de m'avoir invité, madame. Merci.
Arrête. Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise.